Bonjour, vous êtes sur Radio Grand Ciel et c'est le moment de votre cup of tea en compagnie de Véronique Réau avec Émilie à la technique. Au cours de notre rencontre du mois de juillet, j'ai eu le plaisir de vous faire faire la connaissance de Lucia et du petit monde de Rhizome. Aujourd'hui, au cours de cette dernière émission consacrée à l'œuvre phare de Fred Benson, les 6 volumes de la saga de Lucia, je vais vous présenter les habitants du village de Tilling, où Lucia décide de passer des vacances avant de s'y installer définitivement. Je vous rappelle que Tilling est la copie conforme du merveilleux village de Rye, sur la côte sud de l'Angleterre, où vécut Benson et dont il fut le maire. Le volume intitulé « Map et Lucia » a été écrit en 1931. Il débute sur une note sombre, car Lucia vient de perdre son époux, Philippe Lucas, dit Pepino. Nous n'avons aucune raison de douter de la dévotion que vouait Lucia à son époux. Mais nous savons aussi que l'énergie vitale, la curiosité et la soif d'action de cette dernière lui permettent de rebondir en toutes circonstances, même les plus tragiques. Et que si, selon le dramaturge Eugène O'Neill, le deuil sied à Electre, il ne sied pas à Emmeline Lucas, dit Lucia. Benson commence ainsi son roman. Bien qu'Emmeline Lucas, Lucia pour ses amis, eut perdu son époux depuis bientôt un an, elle portait encore une tenue de grand deuil. Il est vrai que le noir lui allait à ravir. Mais, malgré ce que disaient les mauvaises langues, cela n'avait rien à voir. Pepino, elle, avait formé pendant plus de 25 ans un couple extrêmement uni et son chagrin était réel et profond. Il lui manquait cruellement et constamment. Cependant, depuis plusieurs mois maintenant, elle sentait que sa personnalité si active et pleine de vie la poussait à se plonger à nouveau dans toutes les activités passionnantes qui faisaient du village élisabétain de Rhizome un endroit si excitant. Malgré tout, elle ne s'était pas encore décidée à sauter le pas. C'est la visite de son amie Daisy Quantock qui va la pousser à retourner dans le monde. En effet, une grande fête élisabétaine doit avoir lieu au village et au cours de l'été. Cette fête, bien entendu, était l'idée de Lucia, organisée par le comité des fêtes dont elle est la présidente. Il devait s'agir de la reconstitution, de la visite de la reine Élisabeth Ier à Sir Francis Drake sur son navire The Golden Hind, la biche dorée, et il était prévu que la maquette du bateau serait installée sur la mare du village, entourée de bancs pour les spectateurs. Lucia devait assurer la mise en scène du tableau et, ce qui ne surprendra personne, jouer le rôle d'Élisabeth Ier. Pepino, celui de Sir Walter Raleigh, et Georgie Pilsen, vous vous souvenez de Georgie, le chevalier servant de Lucia, celui de Francis Drake. Naturellement, l'événement tragique de la disparition de Pepino a bouleversé tous ses plans. Et l'organisation de la fête est tombée, selon l'expression de Benson, dans les petites mains potelées de Daisy Quantock. Daisy Quantock est en fait ce qu'il est convenu d'appeler un pot à tabac, qui a évidemment sauté sur l'occasion pour s'approprier le rôle de la reine. Lorsque Daisy, certainement animée des meilleures intentions, rend visite à Lucia et lui suggère de se joindre à la fête, arguant que son deuil date maintenant de plus d'un an, Lucia ne doute pas un instant que ce ne soit pour lui rendre le rôle royal qui lui revient de droit. Peut-être, se dit Lucia, avait-elle réalisé à quel point elle serait ridicule dans le rôle de la reine, et avait-elle décidé de se désister afin de sauver la représentation? Lucia pensait qu'il faudrait tout de même que Daisy insiste un peu. Elle était décidée à aider, et il ne faudrait pas insister beaucoup. « Chère Daisy, lui dit-elle, oh, je ne suis pas sûre d'avoir le courage. Je ne peux arriver à m'imaginer quittant ma maison, vêtue de soie et parée de joyaux, prendre place à la tête de la procession sans mon Pepino. Les réjouissances, les cris, les madrigaux et mon pauvre cœur désolé. Mais peut-être devrais-je faire un effort. C'est sûrement ce que Pepino aurait voulu. Et vous semblez partager son avis. Or, j'ai toujours respecté votre jugement. » Un changement subtil apparut sur la face ronde et rougeaude de Daisy. « Ma chère, aucun de nous ne pensait vous demander de jouer le rôle de la reine Élisabeth. Nous comprenons bien que cela serait un trop grand effort pour vous. N'y pensez même pas. Je voulais seulement vous suggérer de prendre le rôle de la femme de Drake. Elle ne fait que s'avancer, s'incliner devant moi, enfin devant la reine, je veux dire, et s'y à reculons, puis rejoint le cœur des dames d'honneur, des halbardiers et le reste. » Les yeux perçants de Lucia s'attardèrent un instant sur le visage anxieux de Daisy avec dédain. Quelle idiote, cette pauvre Daisy, avait-elle été de penser que Lucia pourrait accepter de jouer un rôle secondaire dans quelque événement que ce fût à Rhizome, dont elle avait si longtemps été la reine incontestée. Lucia décide donc de se retirer sous sa tente. Mais, dans la grandeur de son âme, peut-être aussi poussée par la curiosité, elle propose, ou plutôt demande à Georgie de suggérer son aide pour les répétitions. Elle-même a décidé de s'absenter tout l'été et de louer une maison dans le village de Tilling. Cette maison appartient à une certaine Miss Mapp, que Georgie et Lucia connaissent déjà pour l'avoir quelques années plus tôt rencontrée à Rasome. À cette époque, Lucia avait lancé la mode de remplacer « au revoir », dit en français, par « au réservoir ». Cette mode n'avait duré qu'une semaine, mais Miss Mapp s'était emparée de l'expression et avait salué tout un chacun de cette façon, puis l'avait emportée dans son fief de Tilling. Lucia organise donc son séjour à Tilling et part en compagnie de Georgie pour visiter la maison et trouver un cottage à louer pour son chevalier servant dont elle n'a pas l'intention de se séparer. À son retour et comme promis, elle se lance à corps perdu dans les répétitions de la fête, mais malgré tous ses efforts, elle ne parvient pas à faire de la pauvre Daisy une reine Élisabeth crédible. Et elle accepte finalement, après s'être fait prier, de reprendre le rôle dans lequel elle remportera, vous vous en doutez, un triomphe. C'est donc auréolée de gloire et ayant habilement disposé dans le salon de Miss Mapp une collection impressionnante de coupures de presse relatant son triomphe, que Lucia commence ses vacances et découvre le petit monde de Tilling. Un petit monde tout aussi passionnant, divers et pittoresque que celui de Rhizome, avec en outre l'attrait de la nouveauté. Benson décrit les personnages avec la subtilité, l'intelligence et l'humour légèrement féroce que nous lui connaissons. Il y a Mr. and Mrs. Wise, un couple extrêmement distingué qui se déplace en Rolls-Royce, ce qui n'est pas facile dans les rues étroites de Tilling, et occasionne de monstrueux embouteillages. Il y a l'étrange Irène, une jeune femme peintre, garçon manqué, et qui voit très vite une admiration éperdue à Lucia. Et Diva, qui tient un salon de thé, et le major Benji, retraité de l'armée des Indes, qui émaille ses discours de termes indie comme « Quai hai » pour dire salut ou « Tiffin » pour déjeuner. Il y a aussi le padre, le pasteur du village, qui parle avec l'accent écossais, bien qu'il soit natif de Birmingham. Et bien sûr, il y a surtout Miss Mapp. Élisabeth Mapp, qui est à Tilling ce que Lucia est à Rhizome, c'est-à-dire la reine du village, l'arbitre des élégances et l'instigatrice des fêtes et des animations. Mais Miss Mapp est infiniment moins sympathique que Lucia. Elle est pingre, jalouse, mesquine et immédiatement sur ses gardes lorsque Lucia s'installe dans sa maison, puis décide d'acheter elle-même une maison à Tilling et d'y vivre définitivement. Le livre est donc d'abord et avant tout le récit du choc de ces deux titans, dont évidemment notre Lucia sortira victorieuse. Mais elle aura de rudes batailles à mener. L'une consistera à empêcher Élisabeth de continuer à entrer et sortir comme si elle était encore chez elle, sans même sonner à la porte. Lucia finira par faire installer une chaîne extrêmement solide qui réglera le problème. Un autre problème domestique concernera le jardinier de Miss Mapp, Copeland, dont, selon leurs arrangements, Lucia paye les gages, mais à qui Miss Mapp continue à donner des ordres. Lucia met les choses au clair avec l'employé, mais Miss Mapp a tous les culots. Lucia était au piano lorsque l'on tapa à la porte du jardin qui s'entr'ouvrit et Élisabeth dit de sa voix la plus douce « Est-ce que je peux entrer, ma chère ? Vraiment désolée d'interrompre votre charmante musique, Lucia Mia, mais mon bon Copeland est bien perplexe. J'ai donc préféré régler tout de suite le problème, bien que je sois très occupée aujourd'hui. Je suis certaine qu'il ne s'agit que d'un petit malentendu. Copeland n'est pas très malin. Je suis sûre qu'il n'a pas compris ce que vous lui avez dit, d'où sa perplexité. Je lui ai dit que je viendrais vous voir pour tout éclaircir. » Rien de plus simple, ma chère, dit Lucia, cela ne prendra qu'une minute. Il m'a dit qu'il n'aurait pas le temps de tondre la pelouse aujourd'hui, car il devait mettre du fumier sur vos plantations de fraises. Et je lui ai dit, la pelouse immédiatement, ou quelque chose de cet ordre. Il n'avait pas saisi, semblerait-il, qu'il était à mon service. J'espère que maintenant il a compris. Cette déclaration énergique sembla secouer Élisabeth, et Lucia comprit tout de suite que c'était ainsi qu'il fallait la traiter. « Si, continua Lucia, j'avais engagé votre cuisinière en même temps que votre jardinier, je ne lui permettrais pas davantage de passer sa journée à vous rôtir un mouton. Voilà qui est clair ?» Rapidement, Lucia détrône Miss Mapp et c'est chez elle que se réunit la bonne société de Teeling. Ces dîners délicieux et raffinés ne sont pas pour rien dans ses succès mondains. En particulier, un plat remarquable qu'elle a mis au point avec sa cuisinière, le homard à la rhizome. Mais Miss Mapp crève de jalousie et est prête à tout, même à corrompre la cuisinière, pour s'en procurer la recette. Ce qui, nous le verrons, donnera lieu à l'une des scènes les plus dramatiques et les plus hilarantes du livre. En attendant, Miss Mapp continue à agir de la façon la plus mesquine, en rejetant de sa propre initiative et sans l'avis d'aucun membre du comité, les aquarelles que Lucia et Georgie ont envoyées pour participer à l'exposition de peinture du village. Là encore, son complot sera dévoilé et l'épisode se terminera pour elle dans la honte et pour la plus grande gloire de Lucia. Il est vrai qu'à peu près au milieu du livre, le lecteur ressentira une vive inquiétude et qu'il semble bien que Miss Mapp soit à deux doigts d'écraser sa rivale. Car la Contessa Faraglione, sœur de Mr. Wise, mariée à un comte italien et vivante en Italie, doit venir passer quelques jours à Teeling. Mr. Wise se réjouit à l'idée d'entendre Lucia parler italien avec sa sœur. Et Miss Mapp, qui a deviné que Lucia ne connaissait de la langue de Dante que quelques expressions basiques, bien qu'elle fît tout son possible pour faire croire qu'elle parla couramment, se réjouit à l'idée que sa rivale sera démasquée et ridiculisée. Pourtant, une fois de plus, grâce à un stratagème ingénieux que je vous laisse découvrir, espérant bien que vous lirez le livre, Lucia se sortira de l'épreuve, non seulement sans dommages, mais avec un nouveau succès. Mais venons-en au vol de la recette du homard à la rhizome. La scène prend place le lendemain de Noël. Le temps est très mauvais, les marécages qui entourent Teeling sont inondés. Tout le village est dehors, contemplant la rivière en crue qui, avec la marée haute, s'est transformée en un lac immense qui rejoint la mer. Miss Mapp, rentrant chez elle, passe devant la maison de Lucia. Elle sait que Lucia n'y est pas et que les domestiques sont absents et ne peut résister. Elle entre dans la cuisine et trouve ce qu'elle cherchait, un volume épais relié en toile. Elle l'ouvrit et sut immédiatement que ses griffes avaient enfin agrippé leur proie. Car sur la première page figurait la recette des œufs à l'aurore, et sur la page suivante, celle des allumettes au fromage. Elle tourna rapidement les pages et enfin découvrit cette perle inestimable, le homard à la rhizome. En 2 minutes, elle copia la recette magique et remit en place le volume sacré. À ce moment, son cœur cessa de battre, car elle entendit que l'on tournait la poignée de la porte de la cuisine. Lucia s'écria « Qui est là ?» et Elisabeth sut qu'elle était découverte. « C'est moi, chère Lucia. Je voulais vous remercier en personne pour le délicieux pâté et vous demander... » Elle fut interrompue par un rugissement terrible. Unies dans un même mouvement de curiosité, les deux femmes se précipitèrent vers la porte ouverte et se trouvèrent en face d'un mur d'eau. « La rive a cédé !» cria Lucia. « Vite au premier !» Elles se précipitèrent, mais la porte donnant accès à l'étage était fermée à clé. « Nous allons périr noyés !» se lamenta Elisabeth. « Sottise !» cria Lucia. « La table de la cuisine, retournons-la et montons dessus. » Le flot submergea la cuisine et les précipita dehors, à travers le jardin, puis vers la mer. Les Teelingites se tenaient toujours sur la rive opposée. « Regardez !» s'écria Georgie. « On dirait un radeau. Il y a 2 personnes dessus. Oh, ce sont elles, Lucia et Miss Mapp !» C'est à ce moment que Lucia montra de quel bois elle était faite. Elle salua de la main et de sa voix claire s'éleva gaiement au-dessus du vacarme des eaux. « Au réservoir » cria-t-elle, « nous reviendrons, attendez-nous » Et on la vit même entourée de son bras les épaules de Miss Mapp pour la réconforter. Mais, le jour suivant, la table de cuisine réapparaît sans Lucia et Miss Mapp. Tout Teeling se désole et considère les 2 femmes comme perdues. Le padre célèbre un service funéraire. Georgie, qui apprend qu'il est héritier de Lucia, se charge des gages des domestiques, de la remise en ordre de la maison et fait ériger un monument à la mémoire de son amie. Quant au major Benji, qui pour sa part a appris que Miss Mapp avait fait de lui son héritier, il s'installe chez elle sans vergogne et vide sa cave de ses meilleures bouteilles. Lucia et Miss Mapp réapparaîtront cependant des mois plus tard, ayant été sauvées par des pêcheurs italiens. Lucia découvrira son mausolée, ce qui bien sûr la contrariera un peu mais la touchera beaucoup, et Miss Mapp découvrira la façon odieuse dont le major s'est conduit. Après quelques explications orageuses, tout se terminera bien, et Miss Mapp en profitera pour mettre le grappin sur le pauvre major Benji, qu'elle avait bien l'intention d'épouser depuis longtemps. La dernière scène est le repas de fiançailles de Miss Mapp et du major, au cours duquel sera servi, devinez quoi, Le homard à la rhizome, bien sûr.